êtes jeune et vous voulez servir le Seigneur dans une congrégation,
vous êtes embarrassé par votre choix, Radio Maria vous propose l'émission Appel aux vocations, une émission qui oriente votre choix.
Appel aux vocations, une émission qui répond à l'appel du Christ. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création.
Appel aux vocations permet aux congrégations d'entrer en contact avec les maximums d'aspirants et à vous, aspirants, de canaliser vos choix. Car la moisson étant grande, le moissonneur peu nombreux.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes heureux de nous retrouver dans Appel aux vocations, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Maria avec Fidel Kafouch à la présentation. La technique est assurée par Roger Kokolo. Le 2 février de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée, une fête de consacrée instituée par le pape Jean-Paul II en 1997 à la suite de l'exhortation apostolique et post-synodale Vita Consecrata. Le pape Jean-Paul II fixait alors trois objectifs à cette journée de la vie consacrée. Et remercier le Seigneur pour les grands dons de la vie consacrée, faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier, et enfin pour les personnes consacrées, célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Cette fête des consacrés coïncide avec celle de la présentation de Jésus au temple. 40 jours après la naissance du Christ, Marie et Joseph l'amènent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. La vie consacrée recouvre plusieurs formes de vie, ayant chacune un rôle différent. La vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, les ermites, l'ordre des vierges consacrées et les veuves consacrées. Elle se caractérise par la profession publique des conseils évangéliques qui permettent de vivre plus intimement en Dieu. Que signifie conseils évangéliques? Combien sont-ils au total? Avec nous sur ces plateaux, nos invités qui vivent la vie consacrée de manière différente mais unies par le même V, pauvreté, chasteté et obéissance. Alors, nous avons Mademoiselle Yvonne Moussumba. Mademoiselle Moussumba. Vous êtes Mademoiselle ou bien Madame?
Mademoiselle.
Mademoiselle, voilà. Bonsoir.
Bonsoir,
Frère. Oui, vous êtes laïque consacrée, annonciatine, membre de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation, un institut agrégé à la Société Saint-Paul. Vous faites partie des 10 branches de la famille polynienne et on vous appelle Anoussatine. Vous vivez votre célibat consacré, votre profession. Hein, vous êtes Gino maintenant.
Si, je suis.
Vous êtes donc, vous êtes professe temporaire.
Oui, oui.
Oui, vous avez déjà professé le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance. Et vous vivez ça tout en état chez vous.
Dans le monde ouvert.
Dans le monde, comme on peut dire là. Donc, c'est avec joie que nous vous accueillons sur ce plateau de Radio Maria. Bienvenue.
Merci.
Alors, de l'autre côté, nous avons les frères Gloire Bambi. Frère, bonsoir.
Bonsoir, frère Fidel.
Vous êtes Picpus, missionnaire de la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie.
Vous avez dit Picpus. De l'adoration perpétuelle du Très-Saint Sacrement.
Oui, voilà. Alors, vous êtes religieux. Vous ne vivez pas dans le monde comme mademoiselle Yvonne. Vous vivez votre consécration tout en état dans votre communauté, au milieu de vos confrères. Et vous faites partie de quelle communauté comme ça?
Je suis à Mikondo. Mm-hmm. Je suis de la communauté de Mikondo, notre théologa, donc là où habitent les théologiens.
Voilà, et vous êtes étudiant en théologie à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Et vous êtes prophète temporaire déjà. Combien d'années déjà de renouvellement déjà?
Cette année, je vais totaliser 3 ans.
3 ans. Alors donc, chez vous, c'est après 6 ans, bien 7 ans.
Non, après 3 ans.
Après 3 ans. Ouais. Donc bientôt, on espère avoir un diacre parmi nous. D'accord, ce n'est pas la première fois pour vous, ça c'est la deuxième fois sur le plateau de Radio Maria.
Oui, oui.
D'accord, nous vous souhaitons la bienvenue.
Merci beaucoup.
Et voilà, et encore les l'autre de l'Institut Sainte Famille qui va nous rejoindre tout à l'heure, parce qu'on avait voulu que tous les instituts de congrégation soient représentés à cette fête de vie consacrée. Comme ça, vous allez parler, partager votre expérience et comment vous vivez votre vie différemment, parce que vous êtes tous de consacrés, vous avez mis des vœux. De pauvreté, chasteté, obéissance. Et nos auditeurs veulent maintenant entendre, à travers votre témoignage, comment ceux qui sont dans le monde vivent le célibat et consacré par rapport à ceux qui sont encore à l'intérieur dans les couvents. Alors, c'est comme ça dans ces contextes-là. Avant d'entrer dans chaque vœu, commençons par comprendre ce que l'Église appelle les conseils évangéliques. Alors, il y a une question pour vous dire. Pour commencer, pouvez-vous nous dire avec vos mots ce que sont les conseils évangéliques et pourquoi l'Église les propose comme un chemin de vie consacré? Là, et on commence avec vous, mademoiselle Yvonne.
Merci, frère fidèle. Les conseils évangéliques sont trois attitudes de vie proposées par Jésus lui-même dans l'Évangile. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ils ne sont pas des obligations pour tous les chrétiens, mais un chemin librement choisi par ceux et celles qui veulent suivre le Christ de manière radicale et totale. L'Église le propose comme chemin de vie consacré, parce qu'il permet de conformer toute sa vie au Christ, pauvre, chaste et obéissant, et de devenir ainsi un signe visible du royaume de Dieu au milieu du monde. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Matthieu 19, 21.
Et Frère Gouloir, vous voulez ajouter quelque chose sur ces points-là, sur la vie consacrée?
Oui, les conseils évangéliques, comme la sœur vient de dire, là nous voyons le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Ce sont des invitations radicales lancées par le Christ dans les évangiles pour vivre une liberté totale au service de Dieu. Alors l'Église les propose comme chemin de vie consacré car à travers ces conseils évangéliques, les consacrés se configurent à l'image du Christ d'une manière un peu plus étroite parce que le Christ est le modèle de vie de tout consacré. Dans les conseils évangéliques, nous voyons la renonciation, nous vivons la renonciation donc des biens propres et nous entrons dans l'exclusivité d'un amour je dirais qui est le meilleur de tout amour. Parce que nous renonçons aussi à l'amour conjugal. Donc nous renonçons aussi à notre propre volonté pour vivre une volonté qui est communautaire. En parlant de la volonté communautaire, je dis, ce n'est pas nous qui décidons à notre place. Donc les décisions, ça vient de la communauté, d'un supérieur. Alors nous nous consacrons d'une manière radicale. Donc, d'une manière totale, nous abandonnons à la volonté du Christ, parce que c'est lui qui est notre modèle, et tout en cherchant à vivre comme le Christ. En d'autres termes, les religieux et les religieuses vivent déjà les royaumes de Dieu ici déjà sur terre. Nous présentons déjà au monde le royaume de Dieu. Comment est-ce que nous allons vivre bientôt? Donc, nous essayons de présenter au monde de ces royaumes-là. Là, on verra l'amour qui sera ouvert à toutes les personnes. Nous n'aurons pas à nous inquiéter de nous-mêmes et nous n'aurons pas à prendre des décisions. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, si je peux dire en ces termes. Mais il y aura une autre personne
qui décide à votre place.
À notre place.
Donc, pour vous, les religieux et les consacrés.
Ouais.
Et pour nous d'autres chrétiens comme ça, on aura, donc, nous allons décider par nous-mêmes.
vous ne décidez pas en vous-même d'une liberté exagérée, parce que vous risquez d'entrer dans le libertinage. Mm-hmm. C'est-à-dire même l'évangile que le Christ nous a apporté est moral. Et dans la loi morale, la liberté, ce n'est pas de faire ce que nous voulons faire, mais c'est de faire ce que la loi nous demande. Donc, même la liberté de Dieu, c'est pour vivre dans l'amour.
Et voilà, c'est là je reviens sur une question. En quoi les conseils évangéliques sont-ils une réponse radicale à l'appel du Christ dans l'évangile?
Déjà, le terme est radical, qui vient du latin radix, c'est-à-dire la racine. C'est-à-dire, ici, nous voulons nous attacher aux racines même de l'attachement humain pour permettre une imitation totale du Christ. Donc, nous voulons imiter le Christ d'une manière totale. Là où est le monde, là où le monde cherche la sécurité dans l'avoir, dans le plaisir, dans le pouvoir et l'autonomie, dans le vouloir, les consacrer, nous choisissons une rupture nette. Mm-hmm. Une rupture nette. Donc nous ne cherchons pas à vivre dans l'autonomie, dans la liberté totale. La Bible dit, Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Et Jésus ne propose pas une simple réforme morale, mais une réorientation absolue de l'existence où Dieu devient l'unique nécessaire. Donc, pour nous consacrer, quand je dis Dieu devient l'unique nécessaire, nous mettons Dieu à la première place et nous cherchons à vivre ce que lui a vécu comme humain. Et le pape Jean-Paul II, dans son exhortation Vita Consecrata, numéro 18, il dit répondre de cette manière radicale à Jésus, c'est une confession des foi vivante. Elle proclame que Dieu seul suffit à combler le cœur humain. Ce n'est pas une fuite du monde. Nous n'avons pas fui le monde. Mais c'est une manière d'y être présent comme un signe du monde à venir, comme j'avais dit avant.
Ok, merci à vous deux pour cet éclairage. Entrons maintenant dans le premier V, souvent mal compris mais profondément libérateur, la pauvreté évangélique. Dans les regards du monde, la pauvreté est le plus souvent associée au manque, à l'échec, à la dépendance ou à l'exclusion sociale. Être pauvre, selon les critères du monde, signifie ne pas posséder assez, ne pas réussir ou ne pas être autonome économiquement. Le monde valorise au contraire l'accumulation des biens, la réussite matérielle, le pouvoir d'achat et la sécurité financière comme signe de bonheur et de réussite. Dans cette logique, la pauvreté évangélique apparaît souvent comme une folie, une naïveté ou même un refus du progrès. Certains confondent la pauvreté avec la misère ou pensent qu'elle est une fuite des responsabilités, surtout lorsqu'elle est choisie librement par des personnes consacrées. Mais là, je reviens directement pour poser la question à vous, frère Gloire. Vous vivez en communauté religieuse. Qu'est-ce que signifie pour vous lever des pauvretés concrètement dans une vie communautaire?
Merci beaucoup. Lever de pauvreté est un engagement volontaire de renoncer à la propriété et à la disposition personnelle de biens matériels, de biens temporaires, pour suivre le Christ pauvre. D'ailleurs, dans le droit canonique, dans le numéro 600, il impose une vie pauvre dans les faits et en esprit, marquée par une sobriété de vie et une dépendance totale envers la communauté. Sur les plans spirituels et juridiques, il comporte deux dimensions. Il y a l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Quand nous parlons de l'aspect intérieur, nous voyons un détachement du cœur, conformément à la béatitude. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait lu hier dans les évangiles. Errez le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Et il y a l'aspect extérieur. Dans l'aspect extérieur, le religieux ne possède rien en propre. Tout ce que le religieux peut avoir ou doit avoir appartient à la communauté. C'est-à-dire même votre salaire, les cadeaux, pensions et tout. À moins qu'il ait dans votre constitution qu'il ait un numéro ou un code. Si vous avez le code qui dit autrement ou qui dit autre chose, là, vous pouvez faire avec vos dons ou cadeaux, vous ne pouvez pas mettre dans la communauté, mais tout nous remettons dans la communauté, parce qu'il y a aussi d'autres instituts. Si on vous remet un cadeau, c'est ce qui n'est pas le salaire, mais un cadeau, vous pouvez utiliser ça autrement. Mais dans d'autres instituts, si vous avez votre salaire, cadeau, pension, quoi, ça revient à l'institut. Et tout ce dont il a besoin, tout ce que nous avons besoin, est fourni par l'économe, donc suite à une autorisation du supérieur. Donc l'économe ne donne pas comme il veut, c'est toujours le supérieur qui autorise. Alors, Vita Consecrata, j'ai vraiment consulté cette exhortation dans le numéro 89. Là, le pape Jean-Paul II dit « Ce vœu est une réponse à l'instabilité de la possession et un signe de solidarité avec le plus démuni. » C'est tombé ça.
Oui, et c'est ça. Je vais revenir sur vous. Alors, on parle de l'autre côté, mademoiselle Yvonne. Vous vivez la consécration tout en restant dans votre famille. Ce n'est pas comme les frères Gloire qui vivent dans sa communauté. Vous vivez votre pauvreté tout en restant chez vous. Vous êtes dans le monde. Alors, comment les vœux de pauvreté et se traduit-il concrètement dans votre style de vie?
Ok, merci frère Fidèle. Je pense que je ne saurai pas à parler d'autre chose parce que le frère, le...
Il vient déjà de le souligner quelque chose là.
Si. Voilà. J'ajoute un peu seulement quelque chose tel que vous venez de préciser. Moi, je le vis dans le monde ouvert. Il ne s'agit pas de glorifier la misère ni de nier le besoin humain, mais de vivre une sobriété volontaire, une gestion responsable de bien et surtout une confiance radicale en Dieu. Jésus lui-même a vécu cette pauvreté. Il est né dans la simplicité, a vécu sans posséder et a totalement dépendu du Père. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Luc 9, 58. Le vœu de pauvreté libère le cœur pour aimer davantage, partager davantage et servir sans calcul.
Et c'est donc votre façon, c'est cette façon de vivre votre consécration, donc sans calcul. Et c'est comme si une donation totale.
Oui, en quelque sorte. Providence, on le vit dans une providence. Donc on attend tout de Dieu.
Et là, je retourne du côté du frère Gloire. Comment ces vœux de pauvreté façonnent-ils votre rapport à l'argent, au bien et au partage entre frères?
Ces vœux, je dirais, ça s'oriente un peu notre égoïsme. Parce que tout en vivant dans la communauté, en vivant ce vœu dans la communauté, dans une vie communautaire, ce n'est pas le moi qui me dirige, c'est le nous. Ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que nous avons, ce que nous mettons en commun. Et là, dans la vie pratique, moi je suis technicien, comme il s'agit de moi, je donne aussi mon exemple, je suis technicien. Déjà, dès que le supérieur m'autorise à aller travailler quelque part, j'envoie tous les documents, c'est-à-dire les devis, l'argent qu'on va me payer. Donc, je fais les rapports à mon supérieur. Et puis, dès qu'on me paye, je donne à l'économe. C'est-à-dire, avant, ce n'était pas facile, mais maintenant, je crois que pour nous, c'était une joie de nourrir la communauté pour être nourri par la communauté. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas pour moi, mais c'est le nous maintenant. Hein, donc, c'est pour nous. Et ce n'est pas les moi qui gagnent, maintenant, c'est le nous qui triomphe.
Ouais. Et voilà, en quoi c'est ça, dans ces contextes-là, on peut comprendre sur les vœux des pauvretés à travers votre témoignage. Et nous venons d'apprendre que la pauvreté évangélique n'est donc pas l'absence des biens, selon vos explications, mais une manière évangélique de posséder sans être possédé. Donc, de recevoir sans s'attacher, de partager sans calculé. Donc, dans l'évangile, Jésus ne glorifie pas la misère, selon ce que vous venez de Madame Yvonne a souligné ici, mais il appelle ses disciples à une liberté intérieure face au bien matériel. Donc, la pauvreté évangélique, ce n'est pas la fuite de la misère, comme les gens avaient pensé. Donc, chez les consacrés, ceux qui vivent, je ne sais pas moi, dans le monde, ceux qui sont à l'intérieur, ce ne sont pas l'incarnation de la misère.
Non.
C'est juste un détachement, et voilà, pour les royaumes. Nous avons ça comme si nous en angoté. Hein? On possède comme si on n'en a pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ce contexte-là. Donc là, il y a Maître Augustin qui vient de nous rejoindre ici. Je disais à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent que nous sommes en train de parler de la vie consacrée. La vie consacrée, c'est une vie qui englobe, comme je l'ai souligné dans l'introduction, il y a les vierges consacrées, les laïcs consacrés, il y a des religieux, tout ça. Donc, je parlais de l'Institut Sainte Famille. Institution de famille agrégée à la Société Saint-Paul, ce sont des consacrés, le couple est consacré. Mm-hmm. Donc nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Augustin. Maître, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Maria. Mm-hmm. Bonsoir à mon frère Kafouti.
Merci.
Et mes excuses pour le retard.
Bonne fête.
Merci pareillement.
Comment la journée pour votre fête aujourd'hui?
Tu es aussi consacré, non?
Oui, je suis consacré.
Voilà. Bonne fête à tous les consacrés. Mm-hmm. C'est notre fête. C'est un jour où nous devons vraiment prendre à cœur et pouvoir nous revenir en nous-mêmes pour évaluer notre engagement face au Christ, Maître, voie, vérité, vie.
Maître, on parlait de la pauvreté. Nous sommes déjà dans le premier V, la pauvreté. Et l'esprit de gloire vient de parler comment ils vivent la pauvreté en tant religieux dans sa communauté. Et mademoiselle Yvonne aussi a essayé de montrer à nos auditeurs comment, tout en vivant chez elle, comment elle vit la pauvreté. Mais vous êtes couple, vous êtes en couple, père de famille, et tout d'un coup, vous avez professé la pauvreté. La question, c'est tout simplement comment servir des pauvretés, comment vivre la pauvreté évangélique en couple. Et dans le monde est une réalité, comme on peut dire là, moins connue, mais comment vivez-vous ces vœux au quotidien dans votre couple et avec les responsabilités familiales que vous avez?
C'est vrai, c'est une question qui peut susciter beaucoup d'intérêt. Mmh. Hein, c'est comment comprendre que voilà, des couples mariés religieusement, père de famille, mère de famille,
et c'est tout ça,
vont devoir vivre, accepter de vivre la pauvreté. Hein, comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants, s'ils n'ont pas d'argent? Non, la pauvreté n'est pas à prendre dans ce sens-là, dans ce contexte-là. Ici, la pauvreté est à prendre en se comparant, en vivant de manière sobre, c'est-à-dire ne pas être attaché au bien matériel, quand bien même on en a besoin pour pouvoir répondre à nos obligations de parents, de père de famille, de mère de famille, et même comme religieux au sein de nos instituts, on a besoin des moyens financiers pour pouvoir exercer notre apostolat dignement et correctement. Et donc, la pauvreté ici à comprendre comme étant un refus d'attachement au bien et aussi l'usage rationnel de biens que nous possédons, que Dieu nous donne.
Mm-hmm. Parce voilà. Que parfois, ça fait peur d'autres couples, peut-être que même dans ce sens, un couple qui vit la pauvreté et d'une manière aussi officielle aussi, prononcée en public, nous allons vivre pauvres. Donc, c'est dans ce contexte-là. Merci pour l'éclairage sur ces points-là. Ce n'est pas
l'absence des matériels.
Non, on en a vraiment besoin.
Une gestion rationnelle.
Très rationnelle, voilà, alors.
Très rationnelle.
Ne prendre que ce qui est essentiel, nécessaire pour sa vie, quoi. Mm-hmm. Ne pas vivre dans d'opulence, quoi.
Voilà. Voilà. Donc, passons maintenant à un autre vœu qui touche profondément les cœurs et l'affectivité humaine. La chasteté consacrée. La chasteté consacrée suscite souvent incompréhension et préjugés. Un vœu souvent mal compris et parfois même contesté. Dans l'imaginaire courant, la chasteté est souvent perçue comme une privation, une abstinence ou une frustration. Alors là, je reviens vers vous, Maître Augustin, si vous me le permettez.
Voilà.
Absolument. Voilà, on commence avec vous. Comment vivez-vous la fraternité et l'affectivité dans une vie religieuse sans fonder... Là, on parlait de Madame Yvonne. Madame Yvonne, on peut parler, on va revenir sur vous. Mais pour vous mettre, vous allez nous dire, en tant que couple consacré, comment la chasteté structure-t-elle votre amour conjugal et votre fidélité à Dieu?
Voilà, un peu la chasteté ici est à comprendre pas comme étant un refus de consommer le mariage, comme les juristes aiment bien le dire. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de vivre cela dans la fidélité la plus extrême, si je peux me le permettre le terme. C'est-à-dire n'être fidèle qu'à sa femme, son épouse. Mmh. Voilà. Et puis, le vivre pleinement, pleinement sans que cela ne soit une condition, je dirais, impérative, sans laquelle le mariage n'existerait pas. Non. Donc, la chasteté est à prendre à ces conditions-là. C'est un lien, si vous voulez, une opportunité que Dieu nous donne, en tant que couple marié, mmh, de pouvoir se... rattachés de plus en plus l'un à l'autre, c'est donné mutuellement et c'est là à tous égards.
Et Madame Yvonne, on revient vers vous pour comprendre comment vivez-vous les célibats consacrés dans une société qui valorise fortement le mariage et la sexualité.
Bon, merci frère fidèle. Vivre les célibats consacrés aujourd'hui demande une grande maturité humaine et spirituelle. Cela implique une vie de prière fidèle, une relation personnelle profonde avec le Christ, un accompagnement spirituel et une intercession réelle dans la communauté chrétienne. Ce célibat devient alors un signe prophétique, rappelant que le mariage, aussi beau soit-il, n'est pas une fin en soi, mais un chemin vers Dieu. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 1 Jean chapitre 4, 16.
Et là, on passe directement vers frère Gloire. Et comment vivez-vous la fraternité et l'affectivité dans une vie religieuse sans fonder des familles?
C'est pour moi déjà une grande joie de vivre au milieu de tant de frères avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour et aussi d'affection. Mais moi, je pense que cette question doit être bien gérée aujourd'hui dans notre société parce que c'est pas aussi facile d'aimer, d'avoir l'affection, de plus de 20 personnes vivre, donner l'affection de la même manière. Les grands défis dans la vie fraternelle, dans la vie communautaire, c'est d'aimer tout le monde de la même manière. Parce que quand nous parlons de ce vœu de chasteté, c'est de donner à chacun au moins le même niveau d'affection, le même niveau d'amour. C'est-à-dire, si vous donnez 5 au premier, au deuxième, vous devez aussi donner 5, ainsi de suite. Alors, souvent, c'est parce que nous avons, psychologiquement parlant, lorsque nous aimons les gens qui sont autour de moi, il y a des choses qui nous poussent à aimer ces gens-là. Et en tant qu'humain, lorsque vous ne voyez pas ce que vous cherchez dans la personne, ou soit vous voyez juste ce que vous ne voulez pas voir dans la personne, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des divisions. Mais ce que l'Église et le Christ nous demandent, c'est de dépasser ces niveaux-là. Parce que nous sommes invités à aimer tout le monde de la même manière. Et notre amour, notre affection, notre fraternité ne se limite pas dans le mur de nos communautés. Nous sortons aussi dehors pour aimer tout chrétien. Parce que nous sommes consacrés pour l'Église et pour le monde. Nous ne sommes pas consacrés pour rester dans nos communautés. Bon, à moins que les moines qui sont toujours enfermés dans leur communauté. Mais nous, quand même, nous sommes des communautés ouvertes. Nous sortons pour aller témoigner. D'ailleurs, nous, c'est ça notre mission, témoigner l'amour de Jésus vécu dans...
Et là, je reviens directement. Et en partant de vos explications, vous allez maintenant nous donner en quelques mots comment définiriez-vous la chasteté consacrée comme un renoncement, mais comme un choix d'amour. Là, c'est une question justement pour comprendre ça.
Oui, la chasteté s'est définie non pas par un non au mariage, mais par un oui. Un oui, là, c'est à quoi? À une forme d'amour qui se veut le reflet de celui du Christ. Donc, un amour qui cherche à correspondre, à se conformer à l'amour du Christ. Loin d'être une abstinence, elle est aussi une dilatation du cœur, en renonçant à l'exclusivité d'un seul foyer. Les consacrés choisis, nous avons choisi de nous rendre disponibles pour aimer toutes les personnes. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes que la Providence place sur notre route. Nous sommes obligés à l'aimer. Nous sommes invités à aimer toutes ces personnes-là, comme je l'ai dit dans ma réponse précédente. La chasteté est une liberté d'aimer sans s'approprier, permettant aux consacrés d'être un signe de la tendresse universelle de Dieu pour chaque homme.
Et maître, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, hein?
Justement, il faut dire que la chasteté s'est prise comme étant l'amour qui procède de Dieu lui-même. Mmh. Il procède de Dieu et il retourne vers Dieu. Donc la chasteté confirme cet amour de Dieu. Mmh. Hein, alors, il s'est sanctifié alors par le sacrement de mariage en ce qui nous concerne. Et c'est là pourquoi, pour participer à cette œuvre magnifique qui est l'œuvre créatrice de Dieu par la procréation notamment aussi. Mmh. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi parce qu'il est de ces couples qui n'ont pas, en dépit de cette vie conjugale, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais cependant, au nom de ce vœu de chasteté dans le couple, l'opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, même adopter des enfants pour affirmer et confirmer cet amour de Dieu, comme le frère l'a dit, on aime, on est appelé à aimer, pas dans nos communautés, mais partant de nos communautés, vers le monde. Voilà. Donc l'amour est destiné à l'humanité. Et il doit être vécu de manière divine, selon la volonté de Dieu.
Merci beaucoup. Et nous retenons surtout à travers vos explications que la chasteté est avant tout un choix d'amour. Et puis une manière de consacrer tout son cœur au Christ pour aimer plus largement, plus librement et plus profondément. C'est ce que vous venez de dire ici. La chasteté consacrée ne nie pas l'affectivité humaine. Au contraire, elle oriente vers une fécondité spirituelle vécue différemment selon que l'on est religieux, couple consacré ou laïc consacré vivant les célibats. Alors, nous faisons maintenant une pause musicale avant de poursuivre ensemble.
J'ai demandé une chose.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amis auditeurs, merci d'être toujours à l'écoute de Radio Maria. C'est la journée de la vie consacrée, fête de la présentation du Seigneur au temple, fête des gourmandes pour les uns, jour des processions autour de la lumière pour les autres. Le 2 février, une journée importante pour la vie consacrée du monde entier. Nous sommes de retour dans votre émission Appel aux vocations en compagnie de nos trois invités, Maître Augustin de l'Institut Sainte-Famille, frère Gloire de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie et mademoiselle Yvonne Moussumba de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Ils vivent tous les conseils évangéliques, pauvreté, chasteté et obéissance. Voilà, après la pauvreté et la chasteté, venons-en, chers invités, au vœu souvent le plus exigeant intérieurement, l'obéissance. Voilà, le vœu d'obéissance est souvent considéré comme le plus difficile à vivre. Dans un monde qui valorise l'autonomie absolue, l'obéissance peut sembler incompatible avec la liberté. Quand on parle d'obéissance, certains pensent à une perte de liberté. Et pourtant, dans l'Évangile, Jésus lui-même se présente comme celui qui fait la volonté du Père, allant jusqu'à l'obéissance de la croix. La question à tout le monde, comment comprenez-vous le vœu d'obéissance comme chemin de liberté spirituelle? On commence avec vous, mademoiselle Yvonne.
Ok, d'accord. Merci, frère Fidèle. L'obéissance évangélique n'est pas une perte de liberté, mais une libération intérieure. Elle consiste à chercher, à travers les médias humains, la volonté de Dieu, vécu que cette volonté est source de vie. Jésus est le modèle parfait de cette obéissance. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2, 8. Nous pouvons comprendre par là que obéir, se faire confiance à Dieu plus qu'à soi-même.
Et nous allons revenir, on passe directement à Maître Augustin. Et comment vivez-vous l'obéissance envers vos supérieurs et les décisions communautaires? Non, à qui s'adresse votre obéissance? Là, j'allais dire ça au frère Gloire. Vous êtes marié, vous vivez votre consécration chez vous.
En communauté,
ouais, parce qu'il y a communauté. Vous formez une grande communauté avec Abel, Elena et les anges. Alors, je les salue maintenant. Vous avez formé une grande communauté.
Et c'est Maman Huguette, la supérieure de la communauté.
Maman Huguette, la supérieure. Le sac Yangoana, et puis bonne fête.
Voilà.
Donc, Maître, on revient. À qui s'adresse votre obéissance concrètement dans l'Institut Sainte-Famille? Et comment s'évite-t-elle en couple?
Ok. Il faut dire que l'obéissance, on le doit d'abord à Dieu lui-même, par sa parole, qui nous invite à chaque jour à marcher vers lui, sans relâche. Mais rentrant dans notre état de séculier consacré, eh bien, l'obéissance, je la vis d'abord au regard en haut, en face, ou tournée vers ma femme. Mm-hmm. Je me dois d'être obéissant envers ma femme. C'est vrai qu'on va se poser la question, mais comment dans chez toi l'homme, le chef de la famille, comment obéissant à sa femme? Justement, là, c'est une occasion que l'Évangile, au travers de l'Église, Jésus lui-même, nous en a donné l'exemple. C'est une occasion de faire preuve de l'humilité, du sens de l'écoute de l'autre. C'est ça notre manière, nous, comme mariés, de vivre l'obéissance. Il faut écouter sa compagne, lui prêter oreille et ensemble décider sur la conduite et la marche de la communauté familiale.
Donc, votre obéissance en premier lieu
à madame, mon épouse.
Et là, les frères Gloire, comment vivez-vous l'obéissance envers vos supérieurs et les décisions communautaires?
Ah oui, moi, je ne vis pas l'obéissance envers ma femme. C'est envers mon supérieur. Et les supérieurs, déjà, ne nous imposent pas. Parce que il nous rappelle juste les décisions prises lors des réunions ou lors des rassemblements communautaires, si je peux dire. Très souvent, l'obéissance, ça peut paraître difficile, mais moi, je pense que c'est une joie lorsqu'on obéit. Déjà, le père Camille Sapo a l'habitude de nous dire que celui qui obéit ne se trompe pas. Celui qui peut se tromper, c'est celui qui envoie. Mais lorsque vous obéissez, vous ne vous trompez pas. Cette parole me motive très souvent. Et ça me donne la force lorsqu'on m'envoie. Nous avons nos lieux, là on nous envoie pour la pastorale. Et on peut vous prendre d'une pastorale chérie et on vous envoie à une autre pastorale. Ça peut être difficile pour vous, mais si vous obéissez avec joie, vous allez vous rendre compte que la joie qui va guider votre obéissance va vous permettre de bien travailler.
Alors, là, la question revient à mademoiselle Yvonne de l'Institut Marie de l'Annonciation. Comment discernez-vous la volonté de Dieu dans l'obéissance sans vivre en communauté?
Bon, sans vivre en communauté, l'obéissance se vit à travers une écoute fidèle de la parole de Dieu, la prière quotidienne, l'accompagnement spirituel et le discernement des événements quotidiens de chaque jour. Mm-hmm. Je pense...
C'est comme ça que vous vivez votre obéissance. Et c'est là maintenant, vous pouvez maintenant te tirer une définition de l'obéissance. Parce que nos auditeurs, partant de vos points de vie, tout ça, donc nous devons parvenir à une petite conclusion sur votre obéissance. Comment définissez-vous l'obéissance?
De mon point de vue, en tout cas, j'allais tirer pour dire ça. Pour moi, obéir, c'est affirmer sa liberté. C'est affirmer sa liberté, puisque nous, dans l'Église, rien ne peut se faire sans appel à notre liberté. Et donc, nous avons librement choisi de suivre le Christ, maître ou la vérité. Ainsi, par conséquence, nous obéissons à sa parole, à tous les prescrits au conseil évangélique. Voyez-vous? Et donc, c'est librement. Et quand on le fait librement, eh bien, c'est comme le frère l'a dit, cela procure de la joie. Et on ne se trompe jamais lorsqu'on obéit. Ah, je suis totalement d'accord avec vous.
Voilà, c'est très intéressant. Nous sommes presque à la fin de notre dialogue. Et nous pouvons déduire que l'obéissance consacrée n'est pas une soumission aveugle, mais encore une perte de sa liberté. Elle est plutôt une écoute attentive, comme vous venez de le souligner, de vous-même ici, une écoute attentive de Dieu. Un discernement vécu dans la foi, et la prière et la médiation de l'Église. Selon les formes de vie consacrées, cette obéissance s'exprime différemment. Comme on venait de suivre ici, l'Institut Sainte-Famille, l'Institut Sainte-Marie de l'Annonciation et la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie. Donc, cette obéissance s'exprime d'une manière très, très différente. Alors, avant de conclure, prenons un moment pour tourner vers ceux et celles qui nous écoutent. Votre dernier message, Maître Augustin, à nos auditeurs qui nous suivent.
Et c'est de saluer d'abord, les remercier pour le fait qu'ils suivent chaque fois Radio Maria et de les inviter à soutenir notre Mère du Ciel, notre Reine du Congo, à nous aider. Hein? N'oubliez pas chaque fois que Radio Maria passe dans nos paroisses, dans nos familles, de pouvoir donner notre contribution qui soit très significative vraiment pour aider notre radio à aller de l'avant. Mais aussi j'en profite pour pouvoir... dire merci à Radio Marie qui nous a conviés à cette émission. Souhaiter une très bonne fête à tous les consacrés partout où ils se trouvent et aussi particulièrement à ceux de notre institut Sainte Famille. Je salue Papa Faye, Maman Guylaine, à ma femme, je n'ai pas oublié, hein, Maman Yvette Kabanga, Papa Armand Mwamba, Anna Clé Mutombo, Maman Vicky qui est en Europe, on la salue là. Rose Marie qui nous suit à partir du Canada, on la salue également. Et donc, et tous les membres que je n'ai pas pu citer, dans notre cœur, nous vous aimons beaucoup.
Merci. Vous êtes de l'Institut Sainte-Famille. Comment on peut vous contacter aussi? Parce que parfois, à travers votre témoignage, comme votre passage ici,
Et peut-être que vous avez suscité d'autres vocations.
Tout à fait. L'Institut Sainte Famille est un institut qui est agrégé près de la société Michelin de Saint-Paul. Et vous pouvez nous retrouver à la 10e rue limitée industrielle tous les jours. Le père Philippe Mungu, qui est notre délégué, est là pour vous accueillir.
Oui, Frère Gloire, votre dernier message.
Merci, Frère Fidèle. Merci à la radio
très rapidement, parce que...
Maria, qui nous a confié. Aux jeunes les jeunes qui sont attirés par cette vie et qui cherchent à embrasser cette vie, mais qui ont des hésitations, je dirais, il faut suivre votre cœur. Si votre cœur vous dit d'embrasser cette vie, il faut le faire avec beaucoup de joie. Mettez la prière dans le devant, aussi le discernement, parce que c'est un chemin de discernement. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut prier que le Seigneur nous éclaire, vous éclaire, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi votre forme de vie. Il y a plusieurs formes ici. Aujourd'hui, vous avez trois formes. Donc, voilà. C'est à vous de faire...
Merci. Merci. Alors, mademoiselle Yvonne, tout rapidement, votre dernier message.
Bon. Mon dernier message, c'est d'abord vous dire merci pour votre invitation et dire merci à toutes les personnes qui nous ont donné cette opportunité de nous écouter à cette heure ici. Et encourager aussi aux jeunes qui veulent affronter bon, cette vie de célibat ou soit vie consacrée, d'avoir une attitude de la prière, être déterminé en soi, de prendre le courage pour... affronter cette vie sans tout avoir peur ou soit hésiter.
Voilà.
Et je profite de cette occasion aussi de saluer aussi nos demoiselles
de l'Institut
Très Sainte
Marie de l'Annonciation.
Joséphine Makenga, Immaculée Mapendo, Ida, et nous avons aussi Bernadette et les deux autres qui sont à Lubumbashi, Damado et Da Honorine. Je les salue.
Et votre délégué aussi.
Et notre délégué, le Père Isaac.
Chers auditeurs, auditrices, nous arriverons au terme de cette belle émission présentée par Fidèle Kafouch à l'occasion de la Journée mondiale de la vie consacrée autour du thème Conseils évangéliques, considérations et vécu quotidienne. Pour en parler, je recevais pour vous Maître Augustin de l'Institut Sainte Famille, membre définitif par la profession perpétuelle, Mademoiselle Yvonne Moussumba, laïque consacrée, professeur temporaire de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation, le révérend frère Gloire Bambi, religieux de la Congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et Marie. À travers leurs témoignages, nous découvrons que les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance ne sont pas des fardeaux, mais des chemins de liberté, de joie et de don total à Dieu. Merci à nos invités pour la richesse de leur partage. Merci infiniment à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute fidèle. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Maria. Tout de suite, la messe avec le cardinal à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des vies consacrées. Donc, juste après cette émission, nous allons devoir suivre la messe. Alors, avec Roger Kokolo qui est derrière la machine. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne fête à tous les consacrés.
Merci.
Merci.
Merci pareillement.
Vous êtes jeune et vous voulez servir le Seigneur dans une congrégation.
Vous êtes embarrassé par votre choix. Radio Maria vous propose l'émission Appel aux vocations. Une émission qui oriente votre choix.
Appel aux vocations, une émission qui répond à l'appel du Christ. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création.
Appel aux vocations permet aux congrégations d'entrer en contact avec le maximum d'aspirants et à vous, aspirants, de canaliser vos choix. Car la moisson étant grande, les moissonneurs peu nombreux.